Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté aujourd'hui par Serge. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et Eric, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année. On arrive tout doucement vers la fin de 2024, bientôt 2025. Alors on va commencer par faire une petite rétrospective de quelques éléments, événements importants de 2024. Et puis après ça, on ira un petit peu dans le passé pour parler du plus vieil instrument astronomique encore en service aujourd'hui. Donc Serge, écoute, je te laisse la parole pour la rétrospective 2024.
Merci. Alors on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé en 2024. Alors on avait une grande inquiétude sur quelques comètes qu'on attendait. Et on n'a pas été très déçus parce que ça a quand même été une belle année. Ça devait être 2024, l'année des comètes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au total, on a pu en observer à peu près entre 8 et 10. C'est beaucoup pour une année. Alors, je vais vous énoncer les principales qu'on a pu observer, qu'on a pu voir. Donc, on a commencé l'année avec, en février, Pan-STARRS, qui était une petite comète. Et qui ouvrait la saison. Et puis après, on a eu la comète du diable, qu'on appelle aussi le faucon millénaire, parce que quand on la regarde dessus, alors c'est soit deux petites cornes ou alors elle a la forme du faucon. Et donc on a pu l'observer au printemps, en mars et avril. C'était une belle comète. On a pu l'observer avec de petits appareils. Et ça a enchanté beaucoup de monde. Au mois de juin, 13P Olbers. Donc c'était une petite comète aussi qui s'est baladée au-dessus de nous. Et puis enfin, celle qu'on attendait, au mois d'octobre, Tsuchinshan Atlas. Alors en ayant fait le tour un peu, beaucoup ont été déçus quand même de cette comète. On nous l'annonçait comme la comète du siècle, une comète qui devait être extraordinaire. Tout le monde la comparait à Albop en 1997. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une comète qu'on voyait presque en plein jour, à partir de 18-19 heures. Et on l'a suivie pendant de nombreuses semaines, voire même de nombreux mois. Et là, effectivement, Tsuchinshan Atlas a été quand même un peu décevante. Mais bon, on a fait avec et on a quand même pu l'observer avec... des petits instruments aussi, et longtemps après, avec des bonnes jumelles et avec des petits télescopes. Que dire pour ce début d'année 2025? Eh bien, on attend avec impatience C2024G3 Atlas, qui normalement devrait émerger du plan de l'équipe type début janvier, et on devrait la voir apparaître dans le Sagittaire. Donc on l'attend, elle va monter, il paraît que c'est une belle comète. Avant ça, en ce moment, on peut observer, alors il nous faut un peu de matériel, 33P linéaire en décembre, elle se trouve entre la Grande Ourse et le Dragon, donc si vous voyez un peu, Grande Ourse, Petit Ours et le Dragon, eh bien elle se promène à la périphérie de ces trois éléments. Et donc c'est une petite comète qui est jolie à regarder, mais malheureusement, on ne la verra qu'avec des instruments. Donc voilà, donc 2025 va ouvrir avec Atlas G3. On pourra peut-être en parler au mois de janvier. Je ne l'ai pas encore vue, je la cherche. J'attends qu'elle sorte parce qu'elle vient du sud. Donc elle va passer l'équateur et elle va monter en direction de Sagittaire. Donc si on... fait l'émission au mois de janvier, on essaiera de vous en dire un peu plus. On a eu droit aussi à quelques éclipses lunaires et solaires. Alors malheureusement en France, on n'a pas pu en observer. Un petit rappel, Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire ? Eh bien, c'est la Terre qui passe entre la Lune et le Soleil. Et qu'est-ce qu'une éclipse de Soleil ? Eh bien, c'est la Lune qui passe entre la Terre et le Soleil. Et à chaque fois, elle projette une ombre, et donc que l'on peut observer. Alors, une éclipse solaire, eh bien, on en verra partiellement une le 29 mars 2025. Et donc, par contre, il faudra, si on veut bien la voir, il faudra être en Bretagne. On la verra un petit peu aussi de notre côté. Elle longera Montpellier jusqu'à la région parisienne. Mais on pourra la voir. Et enfin, un troisième point qu'on avait vu, qui avait plu à beaucoup de monde, selon les retours, c'était les grandes parades planétaires. Cette année, on a été gâtés. On a pu voir jusqu'à 6 planètes en même temps. Alors, on en voyait 3 vraiment très bien. Hein, et 3, vraiment, il fallait un peu de matériel quand même.
Hein. Oui, quand même. Il y en a qui sont un peu loin quand même. Ouais. Pour les voir à l'œil nu, c'est un peu compliqué.
Ouais. On avait Mercure, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Alors, effectivement, pour ce qui est d'Uranus, Neptune... il fallait quand même ou avoir d'excellents yeux ou alors un bon petit télescope pour pouvoir les observer. Mais pour quelqu'un qui est très observateur, c'était possible. Alors, un petit rappel aussi. Pour voir les planètes, il faut se diriger dans le sens est-ouest, hein, puisque elles sont aussi dans le plan de l'écliptique. Donc ne cherchez pas des planètes dans la Grande Ourse ou dans Cassiopée ou en direction du Nord, vous ne les trouverez pas. Elles sont, on pourrait dire, c'est un petit train, le Soleil, hein, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, eh bien, emmène avec lui, après son coucher, eh bien, ces wagons que représentent ces planètes. Et donc, à partir de la nuit tombante, eh bien, on peut observer ces planètes. Alors, il y en a un de prévu, hein, qui sera peut-être encore aussi beau, hein, qui sera prévu en 2025. On devrait pouvoir le voir à partir du 21 janvier. Et donc, ça sera en soirée, juste après le coucher du soleil. Et c'est pareil, on pourrait voir jusqu'à 6 planètes. Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Alors, elles s'aligneront dans le ciel. Alors, 4 de ces planètes, Mars, Jupiter, Vénus et Saturne, seront facilement visibles à l'œil nu. Par contre, pour ce qui est des autres, Neptune, Uranus, il vous faudra vous équiper de petits matériels comme une bonne paire de jumelles ou un bon petit télescope. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'année 2025, on espère avoir une année aussi riche que 2024. Et eh bien, je vous souhaite de belles observations, hein, et prenez plaisir à observer le ciel.
Bien, merci Serge pour ces petits rappels de 2024. Et en parlant donc de l'hiver qui arrive, puisque on l'a vu, hein, les températures baissent, on voit les premiers flocons de neige sur les montagnes, notamment sur les Gouales. Je vais vous parler de petites minutes là d'une constellation emblématique de l'hiver. C'est celle d'Orion, la constellation d'Orion, qui va bientôt être là. Très tôt dans la soirée, et on va pouvoir l'observer. C'est une des rares constellations qui peut être vue de quasiment toutes les parties du monde. Alors ça, c'est notable, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, hormis les célèbres Orionides, c'est-à-dire les pluies de météores, donc on a également un objet très connu qui est au sein de la constellation d'Orion, c'est la fameuse nébuleuse d'Orion, dont on parlera un petit peu là dans quelques minutes. Faut savoir quand même que Orion, c'est une constellation qui est très ancienne, puisqu'on note la représentation de cette constellation, elle remonte à peu près à 38 000 ans. On en a trouvé des représentations sur des murs de cavernes qui représentaient l'alignement des étoiles d'Orion. Donc ça veut dire que Elle a été reconnue par de nombreuses cultures très très anciennes, et on sait qu'elle servait effectivement de point d'orientation, avec notamment, point remarquable, la fameuse ceinture d'Orion. Alors, elle va monter hein, dans le ciel, là. On commence à la voir assez tôt dans la soirée. Elle est très belle, et bien sûr, la première chose que l'on remarque dans la constellation d'Orion, c'est sa ceinture et ses trois étoiles très brillantes, qui proviendraient d'ailleurs d'un même nuage de gaz et de plasma, qui aurait, et donc ça serait un amas ouvert. Elles ont à peu près le même âge et sont très très alignées, hein, forment une ligne droite très caractéristique. Alors, pour l'observer, la constellation d'Orion, il faut savoir où elle est. Alors ça, c'est pas très compliqué à faire, hein, puisqu'elle se trouve alors sur l'équateur céleste et elle est visible, je l'ai dit, dans le monde entier. Alors, pour nous, dans l'hémisphère nord, elle annonce l'hiver, bien sûr, avec le froid et la neige. Dans l'hémisphère sud, à l'inverse, évidemment, quand elle apparaît, c'est l'été. Alors, comment la trouver ? Elle se présente dans la partie du sud-ouest en début d'observation, et elle va monter tranquillement dans le ciel, et on la voit parce qu'elle a une forme très, très caractéristique, en espèce de sablier, on va dire, pour schématiser, avec à son centre, bien sûr, la fameuse ceinture d'Orion et l'alignement des trois étoiles qui marquent la taille du chasseur, parce qu'Orion, dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur. C'est un chasseur légendaire, et alors, il existe, on va en parler, la transformation d'Orion en constellation, une des versions, alors, il y en a plusieurs, hein, qui dit que Orion, le chasseur mythique grec, aurait été piqué par un scorpion géant, et ce scorpion géant a été envoyé par Gaïa, la déesse de la Terre, qui n'est pas forcément la façon dont Orion avait l'habitude de chasser, et notamment de se vanter de pouvoir tuer tous les animaux qui passaient à sa portée. Donc, elle a envoyé son scorpion géant qui a piqué Orion. Et Artémis, la déesse Artémis, demanda donc à Zeus de placer son compagnon de chasse dans le ciel. Et Zeus, répondant à la demande d'Artémis, a transformé Orion en constellation, mais pour qu'il ne soit pas tout seul, il a également transformé le scorpion géant, qu'on peut retrouver un petit peu plus tard, notamment à l'été, et qui nous montre ses pinces et notamment sa queue. Et donc, on a de nouveau Orion et le scorpion qui sont dans des constellations. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Et pour l'observation, eh bien, on a dans Orion la fameuse nébuleuse d'Orion, qui est, alors, son petit nom technique M42, l'objet numéro 42 du catalogue de Charles Messier, qui se trouve près de la ceinture, un petit peu en dessous de cette fameuse ceinture, de cet alignement des trois étoiles. Et elle est repérable sans aide d'instrument, c'est-à-dire qu'elle est visible à l'œil nu, et c'est une des rares constellations, une des rares nébuleuses visibles à l'œil nu dans un bon ciel, hein, même un ciel un petit peu moyen, on arrive quand même à la discerner. On voit un petit nuage un petit peu laiteux dans le ciel, juste en dessous de la ceinture. Et c'est un très beau spectacle, déjà à l'œil nu. Alors, vous prenez une petite paire de jumelles, c'est encore plus beau. Et si vous avez la chance d'avoir un petit instrument, eh bien là, vous allez pouvoir jouir d'une image qui révèle toute la beauté de la constellation, avec en toile de fond un autre astérisme qui s'appelle le triangle. Et donc, trois étoiles qui sont en formation, hein, d'ailleurs, dans cette région du ciel, parce que la nébuleuse d'Orion, c'est une pouponnière d'étoiles également. Et vous pourrez vous faire plaisir cet hiver à regarder tout ça. Alors évidemment, les photographes s'en donnent à cœur joie. Alors si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, et vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté aujourd'hui par Serge et Eric, en partenariat avec l'Observatoire astronomique Danyaan. Alors aujourd'hui, nous avons parlé dans cette première partie de ce qui s'était un petit peu passé de remarquable en début d'année et sur 2024. On a parlé un petit peu de ce qui pouvait arriver là sur ce début d'année 2025. Et pour terminer le petit chapitre, on a parlé de la constellation d'Orion, la fameuse constellation d'hiver, hein, celle qui va nous donner plein d'idées d'observation. Alors, pour clore le chapitre d'Orion, j'en profite, hein, il y a d'autres objets qui sont remarquables hein, dans la constellation d'Orion. Mais là, je dirais que pour les amateurs, il faut être équipé d'instruments relativement puissants et de gros diamètres, hein, puisque après les autres nébuleuses, notamment celle de la tête de cheval, etc., nécessitent de très très bonnes conditions d'observation, donc des très bonnes conditions météo. Mais également d'instruments performants, puisque là, ils ne se laissent pas voir facilement. Alors là, pour la deuxième partie de cette émission, je vais vous emmener un petit peu dans le passé, et on va parler, puisqu'on parle d'instruments, on va parler de l'instrument scientifique, certainement le plus ancien, encore en service aujourd'hui, qui s'appelle un gnomon. Alors, pour les personnes averties et ceux qui s'intéressent notamment à la gnomonique, bon, il n'y aura pas de secret, ils auront vite compris. Maintenant, la gnomonique, il faut savoir ce que c'est pas évident. Et la gnomonique, c'est la science des cadrans solaires. Et le gnomon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le gnomon, c'est un instrument très simple qui a été utilisé... Son utilisation a été révélée, on en a des traces écrites un petit peu avant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça remonte déjà quand même pas mal de temps. Et en fait, c'est un simple bâton. Vous voyez, comme quoi avec un bâton, on peut faire de la science. Et alors, ce bâton, à quoi sert-il? Alors, le nom gnomon vient du grec ancien qui veut dire indicateur. Ce bâton a servi à étudier le mouvement du soleil au cours de la journée et au cours de l'année. Alors je rappelle qu'on est quand même à moins de 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc l'homme s'est rendu compte que le soleil bougeait, il se déplaçait, et il se déplaçait non seulement d'est en ouest, mais également sa position variait dans le ciel, il était plus ou moins haut. Et on en a bien sûr conclu à l'époque que ben, ça serait intéressant d'étudier ce mouvement. Alors en fait, le bâton en lui-même, c'est pas tellement lui qui est intéressant, c'est simplement l'ombre qu'il projette sur le sol. Alors comment on se sert d'un gnomon? Alors, on prend un bâton, bien droit bien sûr, on le met sur un sol très plat et on le met de façon verticale. Donc ça, c'est deux conditions essentielles pour pouvoir s'en servir, il faut qu'il soit vertical et sur un sol bien plat. Et ensuite, on étudie son ombre et on remarque qu'au cours de la journée, alors, condition essentielle, bien sûr, il faut qu'il y ait du soleil, parce que s'il n'y a pas le soleil, ben, il n'y a pas d'ombre, et donc on attend le lendemain pour le faire. Cette ombre, on remarque vite que le matin, elle est très longue, voire infinie, le soir également, et qu'entre les deux, elle va se raccourcir, et à un moment donné, elle va devenir très courte. Et le moment où elle est le plus courte, eh bien, on est au midi solaire. Donc le soleil est ce qu'on appelle au méridien. Et c'est très intéressant parce que également quand le soleil est au méridien, c'est-à-dire que l'ombre est la plus courte, elle nous indique également une direction. Alors pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, elle va nous indiquer la direction du nord. Et à partir du moment où on a la direction du nord, bien sûr, on peut en déduire la direction du sud et les autres points cardinaux. Donc ça, c'est important quand on voyage. Et ça permet également. Mais la longueur de l'onde va nous donner également une mesure, celle de l'angle que fait l'ombre avec le sommet du bâton et le soleil. Et à partir de là, on en déduit plein de choses et ça permet de faire plein de calculs. C'est comme ça notamment qu'a été calculée la circonférence de la Terre par Ératosthène. Ératosthène, on est à peu près au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est un savant qui habite à Alexandrie et qui lui va essayer de calculer la circonférence de la Terre. Alors déjà à cette époque, on sait que la Terre est ronde, donc il n'y a pas de souci. Et il lui faut quand même un certain nombre de choses. il a remarqué qu'effectivement le Soleil se déplaçait et que grâce à cette ombre, on pouvait calculer des distances et faire des comparaisons. Il va prendre deux points essentiels. L'un à Alexandrie, là où il se trouve. Et le deuxième point sera un point très particulier qui est à Sienne. Alors, Sienne, pas le Sienne en Italie que l'on connaît aujourd'hui, mais Sienne en Égypte. En Égypte ancienne, qui s'appelle aujourd'hui du côté d'Assouan. Et il a remarqué que dans cette ville, qui est quasiment sur le même méridien qu'Alexandrie, il y a un puits. Et dans ce puits, il y a de l'eau. Et quand il est midi au soleil, le soleil se reflète dans l'eau. Ce qui veut dire qu'on est sur une zone où le soleil est carrément au zénith, c'est-à-dire la zone intertropicale. Et à partir de ce moment-là, il a ces deux points de comparaison, et avec les calculs de la dimension de l'ombre de son gnomon à Alexandrie et de la position du puits d'Alexandrie, il va calculer la circonférence de la Terre, sachant qu'il lui manque une chose, la distance entre Alexandrie et Sienne, qu'il va faire calculer par des bématistes. Ce sont des personnes qui sont payées pour mesurer à l'époque. Donc, ils traversent le désert en comptant leurs pas et ils donnent la distance. Et il a réussi quand même à calculer, ce qui est quand même remarquable, je vous rappelle qu'on est à 200 ans avant Jésus-Christ, la circonférence de la Terre, il a trouvé l'équivalent de nos kilomètres, hein, ça donnait à peu près 39 375 kilomètres, c'est-à-dire quelques centaines de kilomètres d'erreur par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même pas mal. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits épris chagrins qui disent « oui, mais Sienne n'est pas tout à fait sur le même méridien. On n'est pas sûr de la distance du stade, puisque c'était l'unité de mesure de l'époque. On n'en est pas sûr, donc on ne sait pas si vraiment le calcul. » Bon, peu importe. Effectivement, aujourd'hui, avec les instruments que l'on a, on sait que la mesure n'est pas bonne. Mais quand même, trouver une mesure à 200 ans avant Jésus-Christ, à quelques centaines de kilomètres près, faut quand même le faire. Et tout ça avec un bâton. Donc, pour en revenir à notre gnomon. Alors, est-ce que ça veut dire que le gnomon, c'est un bâton, c'est un instrument du passé? Eh ben non. Non, parce que le gnomon, il a servi après à faire des grands calculs, notamment sur ce qu'on en appelle l'obliquité de la Terre, c'est-à-dire son inclinaison sur son axe. Avec le mouvement, il y a eu des grandes batailles d'astronomes qui disaient « elle change, elle ne change pas ». Il a donné naissance aux grandes méridiennes intérieures que l'on peut trouver à Bologne, à l'église Saint-Sulpice, à l'Observatoire de Paris. Mais également, aujourd'hui, on s'en sert encore. Alors déjà au XXe siècle, il a servi à faire une mesure très intéressante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un gnomon servait à trouver le nord. C'est valable sur Terre, mais c'est valable également sur d'autres corps célestes, notamment le plus proche de nous, notre satellite, la Lune. Et la mission Apollo 17 s'en est servie du gnomon pour déterminer avec plus de précision le nord géographique de la Lune, puisque on pouvait pas utiliser d'instruments magnétiques, puisque la Lune n'a pas de champ magnétique. Donc il fallait bien trouver le nord géographique de la Lune, et on s'est servi d'un gnomon, la mission Apollo 17. Et aujourd'hui, donc 21e siècle, on a un gnomon qui est là, pas sur la Lune, mais sur notre petite jumelle, hein, que l'on voit bien d'ailleurs en ce moment, qui est Mars. Et la mission InSight s'est servie également d'un gnomon pour déterminer avec précision le nord géographique de Mars il y a tout juste 4-5 ans. Et ce gnomon a d'ailleurs été réalisé par une équipe française et les calculs réalisés également par une équipe française. Donc vous voyez, le gnomon, ça a l'air d'être un simple bâton comme ça, mais ça reste quand même aujourd'hui, a priori, l'instrument scientifique le plus ancien encore utilisé, alors sur Terre et notamment dans l'espace. Voilà pour le petit retour en arrière. Et ben, une fois qu'on a fait le passé, on va essayer d'aller dans l'avenir. On va vous parler, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, des éphémérides de ce que l'on pourra voir en cette fin d'année et en début de l'année prochaine. Alors, à noter que la nouvelle lune aura lieu le 30 décembre. Donc, vous pourrez faire toutes les observations, elle ne sera pas là. Par contre, la pleine lune se produira le 15 janvier. Elle sera surnommée la pleine lune du froid. Côté planète, il y a une belle période qui arrive. On l'a dit tout à l'heure, il y a Mercure qui est dans sa meilleure période d'observation. Alors, en fin de mois, et on pourra l'observer aux jumelles. Vénus, qui, elle, s'observe vraiment superbement côté ouest au crépuscule. Mars et Jupiter sont superbes quasiment toute la nuit. Saturne est visible en première partie de nuit, toujours aussi belle. Uranus et Neptune, également visibles quasiment toute la nuit, mais là, munissez-vous d'un instrument, parce que déjà, il faut savoir où elles sont, et ensuite, il faut pouvoir les discerner. Le 17 et 18 décembre, la Lune et Mars sont en conjonction. On peut le voir à l'œil nu ou avec une paire de jumelles, c'est encore plus beau. On a une occultation de Mars le 18 au petit matin, alors il faudra se lever tôt, prendre sa paire de jumelles. Et le 29, un rapprochement Lune-Mercure avec 6 degrés d'écart. Alors, peut-être à l'œil nu, mais plus certainement avec une paire de jumelles. Du 2 au 4 janvier, on a quelques pluies d'étoiles filantes, notamment le maximum des quadrantides, avec un maximum qui ira jusqu'à 120 étoiles filantes à l'heure. Et on aura un ciel idéal si la météo veut bien être de la partie, puisqu'on n'aura pas de lune. Le 3 janvier, on a une conjonction Lune-Vénus qui sera du plus bel effet. Le 4 janvier, une occultation de Saturne par la Lune, toujours intéressante à regarder, mais le problème, c'est que c'est un petit peu tôt, donc il ne faudra pas la louper, entre 18h25 et 19h30. Le 10 janvier, une conjonction de la Lune et de Jupiter, et le 14 janvier, la Lune et Mars sont en conjonction également. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag et on vous donne rendez-vous pour ce rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud en début janvier pour normalement le 20 janvier l'année prochaine. Et nous vous souhaitons donc à tous et à toutes de passer de très belles fêtes de fin d'année très étoilées. Voilà, Serge, bonne fête de fin d'année et puis à très bientôt. Et on se retrouve en 2025.
Au revoir.